Chapitre 5. Des écrits. Ses bottes résonnant à peine sur un tapis bleu foncé et violet, Gawain se hâtait dans les couloirs de la tour. À intervalles réguliers, comme des sentinelles, des lampes éclairaient le chemin. Sleet devait presser le pas pour suivre le jeune homme. Malgré la lumière, son visage semblait à demi plongé dans les ombres. Peut-être à cause de sa barbe de 3 jours, une rareté pour un champion. Ou de ses longs cheveux, propres mais en bataille. Où étaient-ce ses traits? Irréguliers, il faisait penser à un dessin inachevé. Un creux en guise de menton, un crochet pour son nez très anciennement cassé et des pommettes saillantes. Comme tous les champions, il évoluait avec une grâce féline, mais il émanait de lui quelque chose de primal qui détonnait. Plus qu'un chasseur qui se déplace dans la forêt, il évoquait un prédateur furtif. Que ses victimes ne repéreraient jamais avant de voir briller ses crocs. Les deux hommes atteignirent une intersection lourdement gardée par des soldats de Chubain. Épée à la hanche, ces hommes portaient un tabard blanc orné de la flamme de Tarvalon. L'un d'eux tendit une main.
« Je suis autorisé à entrer !» annonça Gawain.
« La chair d'Amurlin,
les sœurs n'en ont pas terminé !»
lâcha le garde, pas commode. Gawain serra les dents, mais il n'y avait rien à faire contre ça. Reculant, Sleet et lui attendirent, jusqu'à ce que 3 Aes Sedai sortent enfin d'une pièce, elle aussi gardée. Visiblement troublées, les sœurs s'éloignèrent, suivies par 2 soldats porteurs d'un fardeau enveloppé dans du tissu blanc. Le cadavre. Les gardes s'écartèrent, consentant à contre-cœur à laisser passer les visiteurs. Après avoir descendu le couloir, ceux-ci s'engouffrèrent dans la petite salle de lecture. Une fois entré, Gawain jeta un coup d'œil dans le couloir et vit des acceptées passer la tête au coin d'un corridor latéral, tout en murmurant entre elles. Avec cet assassinat, on en était à 4 sœurs défuntes. Une catastrophe pour Egwen, qui s'efforçait d'empêcher les ajats de se sauter à la gorge. Pourtant, elle avait ordonné à toutes les sœurs d'être vigilantes et de ne pas se déplacer seules. Ses membres y ayant vécu des années durant, la Janoire connaissait très bien la Tour Blanche. En utilisant des portails, ces traîtresses pouvaient se glisser partout et tuer à leur guise. En tout cas, c'était l'explication officielle. Gawain avait plus que des doutes. Il avança dans la pièce, Sleet sur les talons. Chubain les attendait.
« Seigneur Trakand, »
salua-t-il, lèvres pincées.
« Capitaine, »
répondit Gawain, en balayant la salle du regard. Elle était minuscule, avec un unique bureau contre le mur du fond et un brasero présentement éteint. Dans un coin, une lampe en pied fournissait une chiche lumière, et un tapis rond au centre du sol dallée occupait presque tout l'espace encore disponible. Une tache sombre s'y répandait, s'infiltrant sous le bureau.
« Vous pensez vraiment trouver quelque chose qui aurait échappé aux sœurs, Trakand ?»
demanda Chubain en croisant les bras.
« Je ne cherche pas la même chose qu'elle. »
Gawain s'accroupit pour inspecter le tapis. Chubain grogna, puis sortit dans le couloir. Jusqu'à ce que les serviteurs viennent tout nettoyer, la garde de la tour surveillerait la zone. Donc, Gawain avait quelques minutes devant lui. Sleet approcha d'un garde qui s'était campé dans l'encadrement de la porte. Contre lui, il y avait beaucoup moins d'hostilité qu'envers Gawain, qui ne comprenait pas pourquoi ces hommes lui en voulaient tant.
« Elle était seule ?»
demanda Sleet.
« Oui, »
répondit le garde.
Elle n'aurait pas dû ignorer le conseil de la chair d'Amurlin.
Qui était-ce?
Catherine Ebwe, de l'âge blanc. Elle portait le châle depuis 20 ans.
Gawain continua à inspecter le tapis. 4 sœurs, aucune du même âge. 2 soutenaient Egwen. 1 était du côté d'Elaïda, et la 4e, très récemment de retour, avait opté pour la neutralité. Chacune tuée dans un niveau différent de la tour, à une heure différente. L'œuvre de la Janoire à n'en pas douter. Ces sœurs-là ne visaient pas des cibles spécifiques, mais simplement faciles. Trop simple pour être ça. Dans ce cas, pourquoi ne pas se transporter de nuit dans les quartiers des sœurs et les tuer toutes dans leur sommeil? Et pourquoi, autour des scènes de crime, aucune Aes Sedai n'avait-elle senti qu'on canalisait le Saïdar? Sleet étudia soigneusement la porte et la serrure. Une fois autorisé par Egwen à inspecter les scènes de crime, Gawain avait demandé s'il pouvait s'adjoindre les services du champion. Lors de leur précédent contact, Slit s'était révélé à la fois méticuleux et discret. Gawain continua ses recherches. Et Gwen était inquiète au sujet d'une chose bien précise, il en aurait mis sa main au feu. À propos de ces meurtres, elle ne jouait pas totalement franc-jeu. Le jeune homme ne trouva aucune marque sur le tapis ou sur les dalles. Pas de traces sur les meubles non plus. Selon Egwen, les tueurs s'introduisaient via un portail. Jusque-là, Gawain n'en avait pas trouvé le début d'une preuve. Bien entendu, il n'était pas expert en portail, et en théorie, on pouvait les faire léviter au-dessus du sol, pour qu'ils n'abîment rien. Mais pourquoi la jeune noire se serait-il donné cette peine? De plus, dans une si petite pièce, entrer sans laisser d'indice aurait tenu du miracle.
Gawain, approche!
Lança Slit. Il était déjà agenouillé près de la porte. Gawain le rejoignit et l'imita. Slit fit jouer plusieurs fois le pen dans la serrure.
Cette porte doit avoir été forcée. Tu vois les raflures sur le pen? On peut crocheter ce genre de serrure en utilisant une aiguille. Il suffit de faire bouger le pen, puis d'actionner plusieurs fois la poignée. C'est réalisable presque sans bruit.
Pourquoi l'agent noir s'amuserait-il à forcer une porte?
Parce que le portail d'arrivée donnait dans le couloir. Ensuite, la tueuse a dû chercher une porte d'où filtrait de la lumière.
Pourquoi ne pas avoir utilisé un autre portail pour entrer?
Canaliser le Saïdar aurait pu alarmer la cible.
Bien raisonné,
reconnut Gawain. Il regarda la flaque noire. Le bureau était orienté de telle façon que son occupante tournait le dos à la porte. Cette configuration glaça les sangs de Gawain. Qui aurait disposé un bureau ainsi? Une Aes Sedai qui se croyait en parfaite sécurité et qui aurait voulu s'isoler du chaos du monde extérieur. Malgré leur intelligence supérieure, les sœurs étaient parfois dotées d'un instinct de survie déficient. Ou elles ne réfléchissaient pas comme des soldats, simplement, parce que leur champion s'en chargeait.
« Avait-elle un champion ?»
demanda Gawain.
« Non, »
répondit Slit.
« Je l'avais croisé une fois ou deux. Pas de champion. »
Il hésita.
« Aucune des victimes n'en avait. »
Gawain arqua un sourcil.
« C'est logique, »
fit Slit.
« Le coupable ne tient pas à nous alerter. »
« Mais pourquoi ces meurtres au couteau ?»
Les quatre sœurs avaient péri ainsi.
« Les sœurs noires ne sont pas tenues de respecter les trois serments. Elles peuvent utiliser le pouvoir pour tuer. C'est plus discret et plus simple. »
« Avec le risque d'alerter la victime ou les sœurs les plus proches. »
Encore une bonne hypothèse. Pourtant, quelque chose n'allait pas avec ces meurtres. Ou Gawain s'accrochait-il à des riens pour avoir l'impression d'être en mesure d'aider? Dans un coin de son esprit, il espérait qu'Egwen, s'il lui était utile, serait moins dur avec lui. Au point, peut-être, de lui pardonner son calamiteux sauvetage pendant l'attaque contre la tour. Chubain revint sur ses entrefaites.
Votre seigneurie a eu assez de temps, selon moi,
dit-il d'un ton sec.
Les domestiques sont prêts à faire le ménage.
Sale type, pesta intérieurement Gawain. Est-il obligé de me mépriser ainsi? Je devrais... Non. Le jeune homme se força à garder son calme. Mais avant tout ça, ce n'était pas si difficile. Pourquoi Chubain cherchait-il des noises? Et comment sa mère aurait-elle géré un tel malotru? En général, il ne pensait pas à Morgaz, parce que ça l'obligeait à se remémorer l'existence d'Altor. Ce criminel-là avait pu sortir de la tour comme si de rien n'était. Alors qu'elle le tenait, Egwene l'avait laissé filer. D'accord, il était le dragon réincarné. Pourtant, dragon ou pas, Gawain rêvait de le défier et de lui transpercer le torse avec son épée.
« Il te réduirait en bouillie avec le pouvoir de l'unique. Tu es un crétin, Gawain Trakand. »
Peut-être, mais la haine d'Altor continuait à le consumer. Un des gardes arriva et désigna la porte. Chubain parut agacé que ses hommes n'aient pas vu qu'on l'avait forcé. Mais la garde de la tour n'était pas une force de police. Les sœurs n'en avaient pas besoin. De plus, quand il s'agissait d'enquêter, elles se révélaient les meilleures. Gawain vit que le capitaine avait vraiment à cœur d'interrompre cette série de meurtres. Protéger la tour et ses occupantes constituait l'essentiel de son devoir. Du coup, Gawain et lui contribuaient à une cause commune. Hélas, Chubain se comportait comme s'ils avaient un contentieux personnel.
De son point de vue, nous en avons un. Lors du schisme, il a été vaincu par le camp de Brine, et à ses yeux, je suis un des hommes préférés du général.
Gawain n'était pas un champion. Pourtant, il avait des liens d'amitié avec la chair d'Amirline, et il dînait avec Brine. Comment Chubain jugeait-il ça? Surtout depuis que le jeune homme s'était vu accorder le droit d'enquêter sur les meurtres.
Par la lumière. Il croit que j'ai des vues sur sa position. Que je rêve d'être haut capitaine de la garde.
Quelle idée ridicule. Gawain aurait pu être le premier prince de l'épée. Non, il aurait dû l'être même. Chef de l'armée andorienne et protecteur de la reine. Enfin, il était le fils de Morgas Trakand, une des souveraines les plus puissantes et rayonnantes d'influence que le pays ait connue. Qu'avait-il à faire du poste de cet homme? Chubain voyait les choses autrement. Après l'attaque des Séanchaniens, son prestige en avait pris un coup. Normal qu'il s'inquiète pour sa position.
« Capitaine, » dit Gawain, « puis-je vous parler en privé ?»
Chubain eut un regard soupçonneux, puis il désigna le couloir, où les deux hommes se mirent à l'écart des domestiques nerveux qui attendaient de nettoyer le sang. Chubain croisa les bras et dévisagea Gawain.
« Que voulez-vous me dire, seigneur ?»
Sur ce titre, le capitaine appuyait souvent avec une lourde ironie.
« Du calme, »
songea Gawain. Il se souvenait encore de son entrée grandiloquente et honteuse dans le camp de Brine. Il valait mieux que ça. Hélas, vivre avec les jeunes gardes dans la confusion puis la honte consécutive au drame de la tour avait fait de lui un autre homme. Certes, mais il ne pouvait pas continuer dans cette voie.
« Capitaine, j'apprécie que vous m'ayez laissé inspecter la pièce. Je n'avais guère le choix.
J'en suis conscient. Pourtant, je vous remercie. » Il est très important que la chère Dame Merlin sache que je fais tout pour l'aider. Si je trouve quelque chose qui a échappé aux sœurs, ça remontera ma cote.
Oui, c'est très possible.
Et Gwen fera peut-être de moi son champion.
Chubain sursauta.
Son champion?
Il fut un temps où j'étais sûr qu'elle me choisirait. À présent... Bref, si je peux vous aider lors de cette enquête, elle sera moins furieuse contre moi.
Gawain posa une main sur l'épaule de l'officier.
Je n'oublierai pas que vous m'avez mis le pied à l'étrier. Vous m'appelez seigneur, mais ce titre n'a plus aucun sens pour moi désormais. Mon seul désir, c'est d'être le champion des Gwen, pour la protéger.
Chubain plissa le front, puis il hocha la tête et se détendit.
Je vous ai entendu parler. Vous cherchiez des traces de portail. Pourquoi?
Je doute que ces crimes soient l'œuvre de l'âge à noir. Selon moi, c'est le travail d'un homme gris. Ou d'un tueur dans ce genre. Un suppôt infiltré dans le personnel de la tour, par exemple. Enfin, voyez le modus operandi. Des meurtres couteaux.
Chubain acquiesça.
Il y a aussi des indices d'affrontement. Les sœurs les ont mentionnés. Les livres tombés de la table, elles pensent qu'ils ont été renversés par la victime, alors qu'elle agonisait.
Étrange,
fit Gawain.
Si j'étais une sœur noire, j'utiliserais le pouvoir sans craindre que quelqu'un le sente. Après tout, des femmes canalisent sans arrêt ici. Pourquoi s'en priver? Après avoir immobilisé ma victime avec des flux, je l'exécuterai, puis je filerai avant que quelqu'un ait des soupçons. Aucun affrontement.
Bien vu,
concéda Chubain.
Mais la chère Dame Merlin semble sûre que l'âge à noir est derrière ces meurtres.
Je lui parlerai afin de comprendre pourquoi. En attendant, vous devriez suggérer aux sœurs qui mènent l'enquête d'interroger tous les domestiques. Vous êtes d'accord?
Oui. Je crois que je vais le faire.
Dès qu'il se sentait moins menacé, un homme perdait beaucoup de son agressivité. Gawain et Chubain s'écartèrent. D'un geste, Chubain fit signe au domestique d'aller nettoyer la pièce. Slit en sortit, l'air pensif. Entre le pouce et l'index, il tenait quelque chose.
« De la soie noire, »
dit-il.
« Impossible de dire si ça vient de l'assassin. »
Chubain s'empara de l'indice.
« Bizarre, ça. »
Une sœur noire ne clamerait pas son allégeance en portant du noir,
dit Gawain.
Un tueur plus ordinaire, en revanche.
Chubain emballa l'indice dans son mouchoir et l'empocha.
« Je vais transmettre cette preuve à Séan Sedai, »
dit-il, l'air impressionné. Gawain fit un signe de tête à Slit. Ensemble, les deux hommes s'éloignèrent.
« Avec le retour de certaines sœurs et l'arrivée de nouveaux champions, » dit Slit. La tour blanche grouille d'activité. Même en étant très furtive, comment une personne vêtue de noir aurait-elle pu se balader dans les niveaux supérieurs?
Les hommes gris sont doués pour ne pas attirer l'attention. Selon moi, nous avançons vers mon hypothèse. Tout de même, il est étrange que personne n'ait vu ces maudites sœurs noires. Mais bien entendu, nous sommes en pleine spéculation.
Les yeux rivés sur un trio de novices qui regardaient les gardes avec des yeux ronds, Slit acquiesça. Quand elles virent qu'on les avait repérés, les filles en blanc gloussèrent bêtement, puis s'éparpillèrent comme une volée de moineaux.
« Egwene en sait plus long qu'elle en dit, » affirma Gawain. « Je lui parlerai. »
« En supposant qu'elle te reçoive. »
Gawain en grogna d'agacement. Empruntant une série d'escaliers et de rampes, les deux hommes gagnèrent le niveau qui abritait le bureau de la chaire d'Amyrlin. La Aes Sedai de Slit, une sœur verte nommée Atori, ayant peu de missions à lui confier, le champion faisait à peu près ce qu'il voulait. Atori aurait bien pris Gawain en complément de Slit. Avec la façon dont le traitait Egwene, le jeune homme était tenté d'accepter. Enfin, non, pas vraiment. Même si elle lui battait froid, l'emplissant de frustration, il aimait Egwene. Abandonner Andorre et la jeune garde pour elle n'avait pas été une décision facile. Malgré ses sacrifices, elle refusait toujours de le lier. Dans l'antichambre du bureau, Sylvana trônait derrière sa table de travail toujours impeccablement rangée. Elle étudia Gawain, le regard impénétrable sur son masque d'Aes Sedai. Mais le jeune homme aurait parié qu'elle ne l'aimait pas.
« La chère d'Amyrlin rédige une lettre de la toute première importance, » dit la gardienne. « Vous allez devoir attendre. »
Gawain voulut protester.
« Elle ne veut pas être dérangée. »
Sylvana s'intéressa de nouveau au document qu'elle consultait.
« Il faut attendre. »
Gawain capitula. Voyant qu'il allait patienter, Slit lui fit signe qu'il filait. Pourquoi l'avait-il accompagné, pour commencer? Un drôle de type, vraiment. Gawain le salua de la main, puis le regarda sortir dans le couloir. L'antichambre aux riches boiseries était en réalité une grande pièce au sol couvert d'un tapis rouge foncé. D'expérience, Gawain savait qu'aucun siège n'était confortable. Mais au moins, il y avait une fenêtre. Le jeune homme alla y respirer un peu, les coudes appuyés sur le rebord. À une hauteur pareille, l'air semblait plus mordant et plus frais. En bas, Gawain pouvait contempler le nouveau terrain d'exercice des champions. L'ancien se trouvait à l'endroit où Elaïda avait fait creuser les fondations de son palais délirant. Avec Egwene, personne ne savait ce qu'il adviendrait de ce projet. Le terrain d'exercice débordait d'escrimeurs et d'autres experts des armes. Avec l'afflux de réfugiés, de soldats et de mercenaires, pas mal d'hommes se voyaient dans la peau d'un futur champion. Egwene avait ouvert le terrain à tous ceux qui désiraient s'entraîner et faire leurs preuves. Dans les prochaines semaines, elle entendait aussi élever au statut d'Aes Sedai toutes les femmes qui étaient prêtes à recevoir le châle. Gawain s'était entraîné durant quelques jours, mais les spectres des hommes qui l'avaient tué semblaient plus présents en bas. Le terrain d'exercice appartenait à sa vie d'avant, quand on n'avait pas encore tourné à la catastrophe. D'autres jeunes gardes étaient retournés sans peine et avec joie à se passer heureux. Jizao, Rajar, Durent et la plupart de ses autres officiers étaient devenus des champions. Très bientôt, de leur groupe, il ne resterait personne, à part lui. La porte intérieure s'ouvrit et des échos de voix parvinrent aux oreilles de Gawain. Se retournant, il vit qu'Egwene, en robe jaune et vert, approchait pour converser avec Sylvana. La gardienne jeta un coup d'œil au jeune homme qui crut la voir surembrunir. Egwene remarqua aussitôt son visiteur, mais ne broncha pas. Confrontée à son masque d'Aes Sedai, elle était devenue très bonne au jeu de l'impassibilité. Gawain se sentit très mal à l'aise.
« Il y a eu un nouvel assassinat ce matin, »
annonça-t-il en approchant de la jeune femme.
« Plus précisément, »
corrigea Egwene.
« C'était cette nuit.
Il faut que je te parle. »
Egwene et sa gardienne se consultèrent du regard.
« D'accord, »
dit la dirigeante avant de battre en retraite dans son bureau. Gawain la suivit sans accorder un regard à Sylvana. Le bureau de la chaire d'Amyrlin était une des plus belles pièces de la tour. Sur les lambris clairs des murs, on avait gravé des scènes magnifiquement détaillées. La cheminée était en marbre, et les dalles rouges taillées en forme de losanges brillaient de mille feux. Sur le grand bureau d'Egwene, deux lampes représentaient des femmes qui levaient les mains au ciel, des flammes dansant dans leurs paumes. Le long d'un mur, des rayonnages proposaient des livres qui semblaient classés par harmonie de couleurs plutôt que par sujet. Des ouvrages ornementaux, en attendant que la nouvelle chaire d'Amyrlin ait fait son choix.
« De quoi veux-tu me parler ?»
demanda Egwene en s'asseyant.
« Des meurtres.
Mais encore ?»
Gawain ferma la porte.
« Que la lumière me brûle, Egwene ! Tu es obligé de me sortir ton numéro de dirigeante suprême chaque fois qu'on se parle ? De temps en temps, je ne pourrais pas avoir droit à Egwene Alvéré ?
Si je te montre la dirigeante, c'est parce que tu refuses de l'accepter. Quand tu changeras d'attitude, nous irons peut-être au-delà de ce protocole relationnel.
Lumière, tu as appris à t'exprimer comme ces femmes.
Parce que je suis l'une d'entre elles. Ta façon de parler te trahit. La chair d'Amirli ne peut pas être servie par ceux qui contestent son autorité.
Je ne la conteste pas. Tu peux me croire. Mais n'est-il pas important pour toi que certains voient la personne que tu es et pas seulement ta fonction?
Si, mais à condition que ces gens aient bien en tête la notion d'obéissance.
Le masque s'adoucit un peu.
Tu n'en es pas là, Gawain. Je suis désolé.
Le jeune homme serra les dents.
N'en fais pas trop, se dit-il.
Très bien. Les meurtres, donc.
Nous avons constaté qu'aucune des victimes n'avait de champion.
Oui, j'ai lu un rapport sur ce point.
Cette réalité m'a incité à réfléchir sur une plus grande échelle. Je conclus que nous n'avons pas assez de champions.
Egwene plissa le front.
Nous nous préparons pour l'ultime bataille, Egwene. Pourtant, beaucoup de sœurs n'ont pas de protecteur. Beaucoup trop. Certaines n'ont pas remplacé le leur après sa mort. D'autres n'en ont jamais voulu. Tu ne peux pas permettre ça.
Et que devrais-je faire, selon toi? Instaurer le champion obligatoire pour toutes?
Oui.
Gawain, même la chair d'Amirli n'a pas ce genre de pouvoir.
Alors passe par le hall.
Tu ne sais pas de quoi tu parles. Le choix d'un champion est une décision intime et personnelle. Aucune femme ne peut y être forcée.
Gawain ne baissa pas les bras.
Le choix de partir en guerre est aussi intime et personnel, sais-tu? Pourtant, dans tout le pays, des hommes sont embarqués dans cette aventure. Parfois, les sentiments se révèlent moins importants que la survie. Les champions gardent les sœurs en vie. Bientôt, chacune de ces femmes aura une importance vitale. Face à des hordes de Trollocs, une Aes Sedai sera plus efficace que 100 soldats. Et via la guérison, vous sauverez des multitudes de vies. Les sœurs sont un bien commun à l'humanité. Tu ne dois pas les laisser sans protection.
Peut-être à cause de la ferveur de Gawain, Egwene eut un léger mouvement de recul. Puis, contre toute attente, elle hocha la tête.
Il y a de la sagesse dans tes propos, Gawain.
Évoque la question devant le hall, Egwene. Fondamentalement, une sœur qui ne choisit pas de champion agit de manière égoïste. Le lien rend un soldat meilleur, et nous avons besoin de tous les avantages possibles. Et ça contribuera à empêcher les meurtres.
Je vais voir ce que je peux faire.
Puis-je consulter les rapports que te remettent les sœurs? Sur les crimes, je précise.
Gawain, je t'ai autorisé à participer à l'enquête pour avoir un autre point de vue. Si tu lis ces rapports, tu tireras les mêmes conclusions que mes sœurs.
Alors réponds au moins à une question. Tes enquêtrices ont-elles envisagé que ces meurtres ne soient pas le fait de l'âge noir? Que le coupable puisse être un homme gris ou un suppôt des ténèbres?
Non, elles n'y ont pas pensé, parce que nous savons que ce n'est pas le cas.
Cette nuit, la porte a été forcée, et les victimes sont tuées au couteau, pas avec le pouvoir de l'unique. De plus, il n'y a pas trace de portail, et
l'assassin a accès au pouvoir.
Coupa Egwene.
Et il, ou plutôt elle, ne se sert sans doute pas d'un portail.
Gawain en écarquilla les yeux. On aurait juré les propos d'une sœur contournant son serment de ne jamais mentir.
Tu gardes des secrets. Pas seulement vis-à-vis de moi, mais de toute la tour.
Parfois, les secrets sont nécessaires.
Ne peux-tu pas te confier à moi? Egwene, j'ai peur que la coupable s'en prenne à toi, et tu n'as pas de champion.
Sans le moindre doute, elle finira par s'en prendre à moi.
Egwene joua avec un objet posé sur son bureau. On eût dit une ceinture de cuir usée, du genre qu'on utilisait pour frapper un criminel. Étrange.
Egwene, parle, je t'en supplie. Que se passe-t-il?
La jeune femme dévisagea Gawain, puis soupira.
D'accord. Je l'ai dit aux enquêtrices, alors tu mérites sans doute de l'entendre. Une rejetée se cache à la tour blanche.
Gawain posa la main sur le pommeau de son épée.
Quoi? Où ça? Tu l'as capturée?
Non, mais c'est elle la meurtrière.
Tu en es sûr?
Je sais que Messa Anna est ici, parce que je l'ai rêvé. Elle se cache parmi nous. 4 Aes Sedai ont perdu la vie. C'est elle, Gawain. Il n'y a pas d'autre explication.
Le jeune homme ravala sa question. Sur le rêve, il savait peu de choses, à part qu'Egwene avait le don. En gros, c'était équivalent à celui de prédire.
N'en ai pas parlé à l'ensemble des sœurs. Si elles l'apprennent, je crains que la division reparte de plus belle, pire que sous le règne d'Elaïda. Tout le monde soupçonnera tout le monde. Les sœurs croient que des traîtresses noires se servent de portail pour venir nous tuer, et c'est déjà très grave. Au moins, ça ne les incitera pas à se retourner les unes contre les autres. De plus, Messana ne se doute pas que je suis au courant. Bref, voilà le secret que tu me réclamais. Nous ne traquons pas une sœur noire, mais une rejetée.
Un sacré choc. Cela dit, apprendre que le dragon réincarné arpentait le monde avait été plus stupéfiant encore. Une rejetée à la tour blanche, c'était bien plus plausible qu'Egwen dans la peau de la chair d'Amerline.
« On réglera le problème »,
assura Gawain avec une confiance feinte.
« Des sœurs fouillent le passé des personnes présentes à la tour »,
annonça Egwen.
« D'autres guettent les propos ou les comportements suspects. Oui, nous la démasquerons. Mais je ne vois pas comment améliorer la sécurité des sœurs sans provoquer une panique dévastatrice. »«
Des champions !»
insista Gawain.
« Je vais y réfléchir. Pour l'instant, je veux te demander une faveur.
Si c'est en mon pouvoir, elle est accordée d'avance, tu le sais.
Vraiment ? Parfait. J'exige que tu cesses de garder ma porte la nuit.
Quoi ? Egwen, ne me demande pas ça ! »
La chair d'Amerline secoua la tête.
« Tu vois, ta première réaction, c'est de défier mon autorité. »
En privé, quand son Aes Sedai est concerné, la contredire est le devoir d'un champion.
Une leçon donnée par le champion et maître d'armes, Amar.
« Mais tu n'es pas mon champion, Gawain !»
Un argument massue.
« En outre, tu ne pourrais pas faire grand-chose pour arrêter une rejetée. Cette bataille sera livrée par des sœurs, et j'ai mis en place des tissages de garde très subtils. Je veux que mes appartements semblent vulnérables. Si Messahana m'attaque, je lui tendrai une embuscade.
« Dont tu serais là-bas ? Egwen, c'est de la folie !»
Non. Du pur désespoir. Des femmes placées sous ma responsabilité meurent, poignardées en pleine nuit. En un temps, tu l'as dit, où nous avons besoin de chacune d'entre elles.
Pour la première fois, la lassitude apparut sous le masque. Quelque chose dans le ton, plus un léger affaissement des épaules. L'air soudain épuisé, Egwen croisa les mains devant elle.
Des sœurs collectent toutes les informations dont nous disposons sur Messahana. Ce n'est pas une guerrière, mais une administratrice capable de planifier. Si je peux l'affronter, je la vaincrai. D'abord, il faut la trouver. Servir d'appât est un de mes plans parmi beaucoup d'autres. Tu as raison, c'est dangereux. Mais j'ai pris de grandes précautions.
Je n'aime pas du tout ça.
Quand ai-je demandé ton aval ? Tu devras me faire confiance.
J'ai en toi une confiance aveugle.
Alors montre-la pour une fois.
Gawain serra les dents. Puis il s'inclina devant Egwen et sortit du bureau en s'efforçant, en vain, de ne pas claquer la porte. Du coup, Sylvana lui coula un regard désapprobateur quand il passa devant elle. Une fois dans le couloir, il prit la direction du terrain d'exercice. Tant pis pour les spectres et les mauvais souvenirs. Il avait besoin d'une longue séance d'escrime. Egwen se radossa à son siège et lâcha un long soupir avant de fermer les yeux. Pourquoi avait-elle tant de mal à contrôler ses sentiments face à Gawain ? Quand il était là, elle aurait juré être la pire Aes Sedai de l'histoire. Tant d'émotions tourbillonnaient en elle, comme différents crus de vin qui se seraient mélangés. La rage face à l'entêtement de ce garçon, l'envie folle d'être dans ses bras, le trouble devant son incapacité à faire passer l'une avant l'autre ou l'autre avant l'une. Gawain avait l'art de s'infiltrer dans sa peau et dans son cœur. Sa passion était enthousiasmante. Si elle le prenait pour champion, serait-elle contaminée ? Exactement, comment ça fonctionnait ? Ça faisait quoi d'être lié à quelqu'un et de sentir ses émotions ? Avec Gawain, elle désirait avoir la connexion que les autres sœurs partageaient avec leur champion. De plus, il était vraiment important qu'elle fréquente des gens capables de la contredire en privé. Des proches d'Egwen Alvéré, pas de la chair d'Amerline. Mais le jeune homme n'était pas assez fiable. Un chien fou. Egwen relut sa lettre au nouveau roi de Théa. Elle y révélait que Rand menaçait de briser les sceaux. Son plan visant à l'arrêter dépendrait du nombre de compagnons du dragon qu'elle convaincrait. Sur Darlin Cisnera, les rapports se contredisaient. Certains le présentaient comme un des plus loyaux fidèles de Rand, et d'autres sous les traits d'un de ses plus irréductibles détracteurs. Laissant la lettre reposer, Egwen prit quelques notes sur la meilleure façon d'aborder le hall au sujet des champions obligatoires. Même s'il extrapolait, Gawain était loin de délirer. Mais il faudrait plutôt suggérer aux sœurs sans champion d'en prendre un, au moins, en insistant sur les vies que ça sauverait et le soutien que ce serait contre les ténèbres. Oui, c'était ce qu'il fallait faire. La chair d'Amirlin se servit d'un peu d'infusion à la menthe. Bizarrement, les feuilles pourrissaient moins facilement ces derniers temps, et celle-là avait très bon goût. À Gawain, elle n'avait pas dit toute la vérité. Si elle ne le voulait plus devant sa porte, c'était aussi parce qu'elle avait du mal à dormir en le sachant si près d'elle. Un soir, elle aurait risqué de déraper et d'aller le chercher. Les coups de Sylviana n'étaient jamais parvenus à briser sa volonté. Gawain Trakand, lui, semblait dangereusement prêt de réussir. Grendel avait anticipé l'arrivée du messager. Même ici, dans son fief le plus secret, sa venue n'avait rien d'inattendu. Aucun élu ne pouvait se dissimuler aux yeux du grand seigneur. La cachette n'était pas un palais, un riche manoir ou une antique forteresse. Il s'agissait d'une grotte dont personne n'avait rien à faire sur une île de l'océan d'Arith où nul ne venait jamais. Et pour cause. À la connaissance de Grendel, il n'y avait rien d'intéressant sur ce caillou. Bien entendu, le confort se révélait minimaliste. 6 chiots de médiocre qualité entretenaient les lieux, qui se réduisaient à 3 salles. L'issue étant scellée par de la roche, il fallait un portail pour entrer et sortir. Une source naturelle assurait l'alimentation en eau, les réserves de nourriture étaient abondantes et des fissures garantissaient une bonne ventilation. Sinon, l'endroit pouvait être qualifié d'obscur et de miteux. En d'autres termes, exactement le genre de refuge où personne n'aurait cru trouver Grendel. Car son goût du luxe et sa phobie du dénuement étaient universellement connus. Cette réputation n'était pas usurpée. Mais le grand avantage d'être prévisible, c'était de pouvoir faire à loisir des choses imprévisibles. Hélas, rien de tout ça ne fonctionnait avec le grand seigneur. Étendu sur un divan tendu de soie jaune et bleue, Grendel regardait le portail qui venait de s'ouvrir devant elle. Vêtu de noir et de rouge, le messager arborait un visage plat à la peau cuivrée. Inutile qu'il parle, sa présence suffisait. Superbe femme aux cheveux noirs et aux grands yeux marrons, un des chiots de l'élu, une ancienne haute dame de Théar, fixait elle aussi le portail. Elle semblait effrayée, et sa maîtresse partageait son appréhension. Fermant l'exemplaire d'un livre intitulé « En flammes dans la neige », Grendel se leva. Rayonnante dans sa robe de soie noire décorée de rubans de straight, elle traversa le portail, attentive à produire une forte impression d'assurance. Moridine l'attendait au cœur de son palais de pierre noire. Dans une salle dépourvue de meubles, un feu crépitait dans la cheminée. Au nom du grand seigneur, un feu par une journée si étouffante? Grendel resta sereine et se força à ne pas transpirer. Moridine se tourna vers elle, les taches noires de Saa flottant dans ses yeux. « Tu sais pourquoi je t'ai convoqué ?» Pas une question, mais une affirmation.
« Oui. »
Arangar est morte pour toujours. Le grand seigneur avait pourtant récupéré son âme la première fois. On dirait que tu te fais une spécialité des catastrophes de ce genre.
Naiblis, je vis pour servir.
De l'assurance. Elle ne devait surtout pas se démonter. Moridine hésita une fraction de seconde. Très bien ça. Je suppose que tu n'insinues pas qu'Arangar nous avait trahis.
Quoi ? Non, bien entendu.
Et c'est ça que tu appelles servir ? Grendel afficha un mélange d'inquiétude et de confusion.
Eh bien, j'ai obéi aux ordres. Je ne suis donc pas ici pour recevoir des félicitations.
Très loin de là, lâcha Moridine. Ta fausse surprise n'aura aucun effet sur moi, femme.
Elle n'est pas fausse,
dit Grendel, jetant les bases de son mensonge à venir.
Bien sûr, je ne m'attends pas à ce que le grand seigneur se réjouisse d'avoir un élu en moi, mais j'affirme que le gain est supérieur à la perte.
Quel gain ? Siffla Moridine. Tu t'es stupidement laissé surprendre, provoquant pour rien la fin irréparable d'une élue. Nous aurions dû pouvoir compter sur toi, entre tous nos gens, pour ne pas se faire gruger par Altor. Moridine ignorait qu'elle avait entravé Arangar, la livrant à la mort. Il croyait à une erreur. Parfait, ça.
Surprendre ? Je n'ai jamais... Moridine, Comment peux-tu croire que je me sois fait surprendre par Altor ?
C'était donc intentionnel ?
Bien entendu. J'ai quasiment dû lui tenir la main pour le guider jusqu'au tumulus de Natrine. Loustérine n'a jamais été très douée pour voir ce qui se dresse devant son nez. Noridine, tu ne comprends donc pas ? Comment Loustérine va-t-il réagir à ce qu'il a fait ? Détruire une citadelle qui abritait des centaines de personnes ? Massacrer des innocents pour atteindre son objectif ? Pourra-t-il accepter aisément cette infamie ?
Noridine hésita. Donc, il n'avait pas envisagé les choses sous cet angle. Grindal sourit intérieurement. Pour le Naiblis, les actes d'Altor semblaient parfaitement logiques. Le moyen le plus simple et pratique pour atteindre l'objectif. Mais pour Altor, il n'en était pas ainsi. Avec sa tête farcie de balivernes telles que l'honneur et la vertu, ce massacre, il aurait du mal à le digérer. L'appeler Loustérine en parlant à Moridine renforçait cette thèse. Ce crime supplémentaire déchirerait l'âme d'Altor et lacérerait son cœur. Ces nuits hantées par des cauchemars, il porterait la culpabilité comme une bête de trait porte son joug. Grindal se souvenait vaguement de ses premiers pas vers les ténèbres. Avait-elle toujours éprouvé cette absurde douleur ? Hélas, oui, contrairement à beaucoup d'élus. Ses mirages, par exemple, étaient corrompus jusqu'à la moelle dès le début, mais d'autres, comme Ishamael, avaient emprunté des chemins déchirants pour rejoindre les ténèbres. Dans les yeux de Moridine, elle voyait des souvenirs très lointains. Par le passé, elle n'était pas sûre de l'identité de cet homme. Aujourd'hui, elle n'avait plus de doute. Le visage était différent, mais l'âme demeurait identique. Et cet individu savait très exactement ce qu'Altor éprouvait.
« Tu m'as ordonné de lui nuire, »
rappela Grendal.
« De lui faire connaître l'angoisse. C'était le meilleur moyen. Arangar m'a aidé. Hélas, elle ne s'est pas enfuie quand je l'y ai incité. Tu le sais, elle a toujours fait face à ses problèmes avec trop d'agressivité. » Mais le grand seigneur trouvera d'autres agents, j'en suis sûr. Nous avons pris un risque, et il y avait un coût. Mais le gain l'emporte. Cerise sur le gâteau, Loustérine me croit morte. Un grand avantage pour nous.
Grindal sourit. Pas de plaisir, mais de satisfaction. Enfin, modéré. Moridine la foudroya du regard, puis il hésita et détourna les yeux pour fixer le vide. « Tu ne seras pas puni pour le moment, » dit-il enfin, à contre-cœur, visiblement. Venait-il de communiquer directement avec le grand seigneur ? Pour ce qu'en savait Grindal, dans cet âge, tous les élus devaient gagner le mont Shaiolghul pour entendre leurs ordres, ou accepter de recevoir la visite de Shaidar Aran, cette ignoble créature. Et voilà que le grand seigneur semblait s'adresser directement au Naiblis. Intéressant, ça, et inquiétant. Assez pour conclure que la fin était proche. En conséquence, il ne restait plus beaucoup de temps pour faire des manières. Après l'ultime bataille, Grindal serait le Naiblis et elle régnerait sur ce monde, devenu son royaume.
« Je crois que je devrais... »
commença-t-elle. « Rester loin d'Altor, » acheva Moridine. « Tu ne seras pas puni, mais je ne vois aucune raison de te couvrir de laurier. D'accord, Altor est peut-être blessé. » Mais tu as saboté notre plan, et tu nous as privés d'un agent très utile.
Comme il te plaira,
dit Grindal.
Et surtout, comme il plaira au grand seigneur. Mais je n'allais pas proposer de remonter à l'assaut contre Altor. Il me croit morte. Autant entretenir son illusion et m'utiliser autre part pour l'instant.
Autre part? Grindal avait besoin d'une victoire, décisive en plus de tout. Passant en revue ses différents plans, elle chercha celui qui avait le plus de chances de réussir. Impossible de repartir en guerre contre Altor ? Eh bien, qu'à cela ne tienne. Elle apporterait au grand seigneur quelque chose qu'il désirait depuis longtemps.
« Perrina Ibarra !»
dit-elle. Devoir exposer ses intentions à Moridine était hautement déplaisant. En principe, elle préférait les garder pour elle. Mais elle n'avait aucune chance d'en finir avec cette rencontre sans avoir craché le morceau. Moridine se tourna vers la cheminée, croisa les mains dans son dos et contempla les flammes. Grindal sursauta quand elle sentit de la sueur ruisseler sur son front. Pardon ? La chaleur et le froid, elle s'en jouait d'habitude. Qu'est-ce qui clochait ? Elle se concentra, mais sans résultat. Non, pas ici, pas près de cet homme. Bien que bouleversée, elle reprit.
Aibara est important. Les prophéties...
Je les connais, dit Moridin sans se retourner. Comment vas-tu t'y prendre?
Mes espions ont localisé son armée. Juste au cas où, j'ai déjà lancé un ou deux plans le concernant. Je contrôle une bande de créatures de ténèbres qui provoqueront le chaos autour de lui, et je lui réserve un piège. S'il perd à Aibara, Altor ne s'en relèvera pas.
Ce serait même encore mieux que ça, souffla Moridin. Mais tu ne réussiras pas. Ces hommes disposent de portails. Il s'échappera. Il s'échappera, te dis-je. La sueur coulait maintenant sur les joues de Grendal. Elle l'essuya comme si de rien n'était, mais son front continua d'en produire. Suis-moi, dit Moridin. Il s'éloigna de la cheminée et sortit dans le couloir. Grendal lui emboîta le pas, intrigué mais pas rassuré. Il la guida jusqu'à une autre porte et l'ouvrit. Grendal entra derrière lui. Très étroite, la pièce était remplie de rayonnages. Dessus, il eut reconnu des dizaines, voire des centaines d'artefacts liés au pouvoir.
Que les ténèbres m'engloutissent! Où en a-t-il trouvé autant?
Moridin avança jusqu'au fond de la pièce et étudia les objets exposés sur une étagère. Grendal écarquilla les yeux de stupéfaction.
C'est une lance-choc?
Demanda-t-elle, en désignant une longue barre de métal.
Et là, tu as trois bâtons-liens? Et un rémacar? Ces pièces appartiennent à...
Aucune importance, coupa Moridin en s'emparant d'un artefact.
Si je pouvais seulement...
Tu n'es pas loin de la disgrâce, Grendal, dit Moridin, menaçant. Se retournant, il brandit une longue tige de métal argenté, munie d'une tête également en métal, mais incrustée d'or. Je n'ai trouvé que deux exemplaires de cet objet. Le premier est utilisé très judicieusement en ce moment même. Tu te serviras du second.
Un aiguillon des rêves?
Fit Grendal, les yeux de plus en plus ronds. Elle aurait donné cher pour en avoir un.
Et tu en détiens deux?
Moridin tapota la tête de l'aiguillon qui disparut de sa main. Tu sauras où le trouver?
Oui,
souffla Grendal, vorace. Un artefact très puissant et utile d'un nombre incroyable de façons. Moridin approcha et riva ses yeux dans ceux de l'élu. Grendal, fit-il, menaçant, je connais la clé de cet artefact. Tu ne devras pas l'utiliser contre moi ou un autre élu. Sinon, le grand seigneur le saura. Tant que Perrin Aibara ne sera pas mort, tu auras une très faible marge de manœuvre, si tu vois ce que je veux dire.
Oui, bien entendu.
Soudain, Grendal eut l'impression de geler. Comment pouvait-elle avoir froid ici, et tout en continuant à transpirer?
Aibara peut arpenter le monde des rêves, avertit Moridin. Je te prêterai un autre outil, l'homme aux deux âmes. Mais il est à moi, comme l'aiguillon, et comme toi, tu saisis?
Grendal acquiesça. Elle aurait été incapable de s'en empêcher. La pièce sembla devenir plus obscure. À présent, la voix de son interlocuteur ressemblait un peu à celle du grand seigneur. Moridin prit entre le pouce et l'index le menton de l'élu.
« Si tu réussis, le grand seigneur sera content, très content même. Ce qui t'a été accordé avec parcimonie jusque-là te sera libéralement distribué. »
Grendal sumecta les lèvres. Moridin parut soudain étrangement distant.
« Moridin ? »
l'interpella-t-elle, troublée. Sans répondre, il lâcha le menton de Grendal et traversa la pièce. Sur une table, il prit un grimoire recouvert de cuir clair, l'ouvrit à une page donnée et lut en silence. Puis il fit signe à l'élu d'approcher. Grendal obéit prudemment. Quand elle posa les yeux sur la page, elle frissonna.
« Au nom des ténèbres, quel est ce livre ? »
parvint-elle à demander.
« Et d'où viennent ces prophéties ?»«
Je les connais depuis longtemps, » fit Moridin, sans lever les yeux du grimoire. « Je suis un des seuls, même parmi les élus. Les femmes et les hommes qui les ont énoncées ont été isolés et gardés au secret. La lumière ne doit jamais découvrir ces mots. Nous connaissons les prédictions de l'autre camp, mais il ne faut pas qu'ils soient informés des nôtres.
Mais...
Grendel relut le passage.
Ce texte dit qu'Aibara va mourir.
Chaque prophétie peut être interprétée de plusieurs façons. Pourtant, c'est bien ça. Cette prédiction annonce qu'Aibara périra de notre main. Tu m'apporteras la tête de ce loup, Grendel, et quand tu l'auras fait, tout ce que tu demandes te sera accordé. Moridine referma le livre. Mais prends garde, si tu échoues, tu perdras tout ce que tu as gagné, et même bien plus que ça. D'un geste, Moridine créa un portail pour sa visiteuse. Avec ses maigres aptitudes pour le vrai pouvoir, qu'on ne lui avait pas retiré, Grendel vit des lignes brisées déchirer l'air et ouvrir un passage dans le tissu même de la trame. Un passage qui la conduirait à sa grotte secrète, devina-t-elle. Sans un mot, elle traversa. Quand on risqua d'avoir la voix qui tremble, autant ne rien dire.